Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time saison 5, épisode 15, avec autour de la table, eh bien, notre bande de chroniqueurs, à commencer par la droite, avec toi mon Jérém.
Bonsoir à toutes et à toutes, et heureux de vous retrouver pour cette semaine de Money Time.
Et à côté de toi, c'est Jean-Marc, salut mon pote.
Salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un petit coucou à Chris qui va nous écouter pour le tennis.
On l'embrasse et en invité guest, Mathieu de Passage en Force. Salut Matt.
Bonsoir à tous, merci de m'accueillir, ça fait très plaisir d'être là.
Ça nous fait plaisir également. À côté de toi, c'est Charles. Comment que tu vas bien, mon Charles?
Salut à tous, salut à toutes. Moi, ça va très bien, donc je suis très content de pouvoir discuter sport avec vous et tout, voilà, ce soir.
Et puis, on n'oublie pas Fab.
Bonsoir amis sportifs, bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Alors ce soir au sommaire, on va parler de beaucoup de choses et on va commencer par parler des résultats de nos clubs nantais. C'est le score en stock.
Money Time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va commencer par parler de nos Canaries. Je veux bien sûr parler du FC Nantes qui recevait Lorient, les Merlus. Donc les Canaries contre les Merlus, ça c'était pour les mascottes et ça a fini en soupe de poisson.
Oh! Ah ben ça a fini pour les Lorientais malheureusement cuit bouilli hein.
Mais tu dis malheureusement c'est parce qu'on t'a vu avec des photos avec un drapeau orange et noir.
Voilà. Je me dédouane totalement, c'était pas pour moi. Mais ouais, une belle victoire des Nantais, 4-2 hein, sur à la Beaujoire dans un stade très frais et tout, et ben ils ont bien réchauffé l'atmosphère par le nombre de buts, hein, ce fut un très beau match, l'ouverture du score par Andrei Giroto sur un
super coup franc. C'est son deuxième, ouais. Deuxième en deux matchs.
Exactement.
Nice, il avait marqué
une belle patate.
Belle frappe, alors que les Lorientais s'étaient mis à 7 dans le mur avec un joueur allongé, et Palois qui faisait l'essuie-glace devant le mur.
Pour gêner,
voilà, et c'est passé. Et ça a été touché.
Oui, par le meilleur buteur de Lorient, Terrel Moffi, mais sauf que c'était pas dans le bon sens.
Et 1-0 à la mi-temps, et seconde période, les Canaries commencent très très bien dès la 53e minute. But de Randal Kolo Muani, premier poteau, en puissance, rien à dire.
Sur une magnifique percée de Fabio qui est parti de son aile, qui a traversé la défense lorientaise avant de remettre un superbe ballon à Kolo Muani qui. Frappe imparable.
Rien à dire. À ce moment-là, on se demande hein, si les Nantais.
On va dérouler. Et tout qu'on fait, non.
Pas du tout.
Petite boulette en défense. Alors, il y avait des problèmes. C'est un peu une nouvelle défense hein, pour les Nantais de jouer en 3-5-2. Donc, petite embrouille du côté d'Apia. Perte de ballon, ça revient avec un peu de chance dans les pieds de Terrel Moffi, qui se fait pardonner pour son coach et qui marque.
Un but un peu ricoché, très chanceux.
Ah oui, très chanceux.
Mais du coup, un but qui faisait du bien aux Lorientais. Et 10 minutes plus tard, un but à la 69e minute, c'est Ousmane Boukhari qui vient remettre les Nantais dans le droit chemin sur un but un petit peu chanceux, on va pas se cacher, mais une frappe déviée qui lobe le gardien.
Son premier but, à Nantes, en sachant qu'il allait sortir.
Le panneau en sachant qu'il allait sortir, c'est ça.
Ouais. Il est sorti quand même.
Il est sorti quand même, évidemment, il n'y a pas de raison.
Une frappe qui est détournée par le défenseur, qui finit en lobe, qui trompe Paul Nardi.
Il peut rien garder.
Il ne pouvait rien faire.
Alors, on se redit que c'est bon, ils vont pouvoir dérouler. Et patatras, comme
rebelote,
une nouvelle fois, fin de match, 85e. C'est Soumano qui venait juste de rentrer.
10 secondes avant, le jeune ex-Castelbriantais, il est à Lorient depuis 15 jours. Et il arrive, il marque un super but parce qu'il va vraiment dribbler toute la défense avant de tromper de près.
Il est tout neuf parce qu'il a même pas
Alban Lafont pour son anniversaire.
Le pauvre, il a même il a même pas son nom sur le maillot.
Ah, oui, bah, oui,
même pas.
Ah, c'est le genre de joueur qui a pas le numéro 33, le numéro Joker. Mais heureusement, dans la foulée, c'est Mendes qui nous offre un but.
Il y a pas mal de changements des deux équipes.
Il y a 3-2 là, c'est ça ?
Ouais, il y a pas mal de changements des deux équipes. On fait rentrer, on fait sortir. Bon, ils ont été jusqu'au bout.
Entre Augustin notamment.
5, Augustin et Pereira.
Et du coup, c'est Willem Rubbels, puisque c'est comme ça que ça se prononce. Il l'a dit lui-même.
C'est hollandais alors ?
Oui, il est d'origine hollandaise.
Non, belge.
Bah, belge, hollandaise, flamande, on se comprend. Après,
non, tout ça là-haut, là.
Non, lui, il a dit qu'il était d'origine, il avait des origines hollandaises.
Oui, c'est vrai.
Rubbels, donc.
Rubbels, qui marque Rubbels. Avec la complicité du défenseur lorientais. Un peu court.
Passe en retrait, passe et appuyé dans sa surface. Et puis, Rubbels qui en profite, du coup, et avec une frappe entre les jambes de Nardi. 4-2, le match est plié. Belle victoire des Nantais qu'on pourrait saluer les 4 buts.
Faut savoir que ça fait. On est la 22e journée, on a mis 30 buts. C'est pas arrivé depuis 2001.
2001, on était champion.
On était champion.
Pour le coup, bon, est-ce qu'on va être champion en fin d'année ?
On va pas être champion, évidemment.
Champion de Bretagne, peut-être.
Mathématiquement, c'est pas
fini. Il faut savoir que,
à part Rennes, évidemment, nos voisins rennais, on les a pas battus cette année, mais on a battu Angers sur un score de 4-1. On a battu Brest
4-0.
Et on bat Lorient 4-2. Ouais. Bon, maintenant, la bête noire, c'est Rennes. Il faut absolument les battre, je vous le dis.
Oui, ce serait bien. Mais à noter que Lorient aurait pu revenir à la dernière minute, encore une fois, sur une superbe action de Sambou Soumano.
Lafont est là.
Et c'est Lafont qui vraiment fait un super barret dans les pieds de l'attaquant lorientais.
Je suis très désolé pour les Morbihanais, parce que je suis quand même Morbihanais d'origine. Et ça m'embête pour Lorient, parce que là, ils s'enfoncent un peu plus. Et ça sent la Ligue 2, quand même.
Bah, au classement, ça nous fait du bien, nous. Hein, parce que nous, on repasse du coup 9e au classement. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon,
hein. On reste
3 points de la 4e place.
On est loin de la relégation. Mais si on compte les 42 points, normalement, ce qui est tous les ans logique à peu près, 42 points pour rester en Ligue 1,
on les a
et on peut viser plus haut. Et ce résultat 4-2 satisfait Antoine Koumboiré, qu'on écoute en conférence de presse.
Quand on a perdu à Nice, j'attendais de rebondir très vite. J'attendais une victoire de suite. Et voilà, au moment où je vous parle, j'ai des très belles équipes, j'ai des très grands joueurs, parce qu'ils sont capables de répondre présent au défi que je leur ai lancé. Donc quand on gagne, tout de suite après une défaite, c'est que voilà, le challenge, il a été réussi.
Sur le contenu, Antoine, le match est emballé en fin de rencontre, il y a eu beaucoup moins de maîtrise aussi de la part des Nantais. Alors, vous prenez deux buts, ça vous. C'est ça.
Alors, je vais répondre avec mes mots, je m'en fous. Vous savez quoi ? Marquer 4 buts, c'est jamais facile, donc on a gagné aujourd'hui. Les joueurs étaient attendus au tournant, il fallait gagner, on a gagné, on a marqué 4 buts. Je suis super content. Le reste, on s'en fout.
Voilà, un bon résultat pour le FC Nantes. Jean-Marc, tu étais avec Charles, notre envoyé spécial à la Beaujoire, et tu as ramené du son de la zone mixte. On écoute d'abord Nicolas Palois.
Très loin des calculs, il faut juste jouer. Voilà, on a montré un bon état d'esprit cet après-midi, il faut le garder.
Nicolas, est-ce que c'est plus facile sur ce schéma tactique avec trois défenseurs centraux ?
On peut jouer dans différents systèmes. Après, c'est avec le coach. Le système là, il fonctionne bien. Même en 4-4-2, ça fonctionne bien aussi. Après, aujourd'hui, je pense qu'on a quelques automatismes. Et c'est une bonne chose, aussi bien Quentin que Fabio à droite. Non, tout va bien. Je pense que du moment qu'on joue ensemble, ça se passe bien.
Voilà une première réaction. Et puis le coach de Jean-Marc.
On vous a vu très content de les buts marqués par Boukari, également Jubels. Ça fait plaisir d'avoir beaucoup d'attaquants qui marquent.
Ben parce que ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Et enfin, ils sont efficaces, donc bien sûr qu'on est d'abord très content pour eux parce que ça va récompenser donc leur travail. Et puis surtout, ça va aussi donner confiance à l'équipe, quoi, de savoir qu'on peut compter sur eux, quoi. Mais voilà, c'est qu'une étape, c'est ce que j'espère.
Et à noter que donc, des attaquants qui marquent, pardon, et le retour très bientôt de Moses Simon, puisque le Nigeria a été éliminé à la CAN.
Ouais, on en parlera tout à l'heure. Bon,
moi, j'ai vu, parce que là, on voit un peu tous les joueurs, j'ai vu une première mi-temps de Moussou Samy extraordinaire. Il était partout.
Très bon match, ouais.
Il était partout en première mi-temps.
Très bon match de Moutou Samy. Ben ouais, c'est lui qui donne aussi la balle sur le troisième but nantais, à Boukari. Ouais. Et très bon match de Fabio aussi. Du coup, on avait des latéraux qui étaient limite ailiers.
Et on a vu, ouais.
Et du coup, on a vu un Quentin Merlin aussi très très bon
très
de son côté.
Des bonnes pattes gauche.
Il y avait du bon mouvement.
Ça a bien combiné. C'est un match. Alors, si on enlève les petites erreurs défensives qui nous fait concéder les deux buts, ça reste un match très solide. Bonne maîtrise face à des Lorientais en difficulté.
Oui, parce que
où le Nantes a su franchement bien jouer. Ludovic Blas parfois a eu quelques tendances à un petit peu parfois gâcher le ballon, à faire des passes un peu hasardeuses.
Il gardait dans l'ensemble.
Exactement. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon match avec du
mouvement. Ouais, c'est ce que je te dis. De bon augure pour la suite de la saison. On enchaîne avec les féminines parce qu'il faut qu'on avance. C'était à Sopin face à Strasbourg.
Exactement, c'était la réception de Strasbourg. Et les féminines ont fait 0-0 malgré quelques occasions. Mais au classement, ça ne change pas grand-chose.
Si, elles gagnent
un petit point puisque du coup, elles sont premières ex aequo avec Metz et, et Le Havre. Puisque les deux équipes ont perdu, ça se resserre au classement. Trois équipes à 25 points. Derrière, il y a Le Havre... Lille qui s'est fait battre à domicile par Lens à 2 points et Lens est à 5 points. A noter au calendrier, donc dimanche prochain, c'est un déplacement à Soyaux pour la Coupe de France. Et puis après, ben on verra bien.
Ok, c'est bon pour les footeux et les footeuses. On enchaîne avec le hand. Jérémy, tu étais toi aussi de sortie hier. Envoyé spécial à Mangin-Beaulieu pour ce match d'European League des Neptunes face à Baia Mare, les Roumaines.
Tout à fait, et match gagné brillamment 34 à 29, malgré une première mi-temps qui a été très compliquée, où elles ont réussi à arracher le nul à la mi-temps 14-14.
Ouais, trop de pertes de balles.
Trop de pertes de balles, dont 9 fautes techniques, dont 4 à elle seule attribuées à Orlan à Honda, qui est sorti du match à la mi-temps, remplacé par O'Donnell, et qui a changé totalement la physionomie du match en défense, en niveau d'attaque défense, et ça a beaucoup plus solidifié et fluidifié le jeu des Nantaises, qui sont permis pendant deux buts d'avoir un petit plus 6 d'affilée, et c'est finalement fini par un plus 5. Gros match, et qui, même grâce à ça, sont deuxième de leur groupe à 4 points et avant le déplacement pour le match retour face à Baia Mare.
Ouais, et puis on va parler de ceux qui ont brillé dans les buts, encore une fois, Adrien Piacek.
Piacek qui a elle seule, lui seul à la première mi-temps, a effectué 9 arrêts. Deuxième mi-temps, elle a refait 3 de plus avant de se blesser et de laisser sa place à Florian André pour la fin du match, qui Florian André a marqué l'avant-dernier but des Nantaises d'un but à but en un seul coup.
Ouais, sur une supériorité numérique, elle nous a montré son agilité. Nathalie Hagman qui cartonne. Hein.
Voilà, Nathalie Hagman qui a marqué 11 buts sur ses 13 tentatives en tout, dont un seul jeu de 7 mètres.
J'en profite pour rebondir, puisque dans la semaine, elle s'était déplacée à Chambray. Match perdu de justesse 32-31, un 19-16 à la mi-temps. Alors, c'est pas un scénario, faut croire. Hein. Jusqu'à la 46e, Nantes a été menée même jusqu'à par 8 buts par les Chambraisiennes. Et puis Nantes va revenir tout à la fin. Et Manon Loquet aura une balle d'égalisation à la 60e. Malheureusement, sera arrêtée par la gardienne. Moi, ce que j'ai à noter, et j'ai noté ça aussi sur son match, Naïmi Ardouin, elle était à 5 sur 5. Elle a encore fait un super match contre hier.
Exact.
Et puis, c'est déjà pas mal.
Et ce qu'on peut retenir de ces Nantaises, c'est que c'est leur force de caractère. Elle n'a jamais à la faire. Dès qu'elles sont dans l'adversité où elles commencent à baisser le pied, elles ont toujours la niaque pour se surpasser et accélérer le jeu.
Et puis, il y a le coach aussi qui aide beaucoup dans cette équipe, hein, avec son côté très paternel. Les filles se sentent beaucoup plus investies pour elles. Ça sera la réception de Brest mercredi sur l'agenda à Mangin-Beaulieu.
Exactement.
Un gros morceau.
Brest qui a gagné deux matchs en Coupe d'Europe cette semaine. C'était à domicile contre Bucarest 24-21 mercredi. Et à Podravka hier, victoire 39-28. Donc ça va très bien pour Brest en Ligue des Champions. Et le match qu'on va avoir va être très intéressant.
Tu y seras, Jean-Marc, et tu Exactement. Nous ramèneras sans doute du son.
Prochain match, ça sera en Coupe d'Europe, ça sera Bayern Maré le 6 février. Et je voulais t'ajouter une dernière info, le retour en France de... Ah mince, hey, je l'ai oublié.
C'est dommage.
ça va me revenir, je te le dis tout à l'heure.
En tout cas, il revient.
Ok, allez, on enchaîne avec les Corsaires. Ils avaient deux matchs à jouer dans la semaine. Tu veux nous donner les scores hein ?
Alors, je dirais même trois matchs, puisqu'ils avaient un déplacement à Épinal. C'était mardi, défaite 2-0 pour les Corsaires, un petit peu décevant. Derrière, ils se déplaçaient à Strasbourg contre l'Étoile Noire, mercredi. Ils vont mener jusqu'à 4-0. Strasbourg, on va revenir, ça va se jouer au pénalty. Et ils gagnent 7-6. Et puis, le match que j'ai été voir, c'était samedi soir.
Face à Clermont,
la Nantes a déroulé 3-0 après le premier tiers. Deuxième tiers, ça va revenir à 6-2, puis 9-2 pour Nantes.
Me dis pas le résultat final, mais je crois que ça s'est fini en potée auvergnate.
Exactement, 11-2. Et à noter, alors je suis désolé, j'ai oublié le son de Martin Lacroix, à noter la très belle prestation de André, qui marque 3 buts.
Ok, alors au volet...
Au programme, pour eux, ce sera Neuilly samedi, pardon.
Très bien, au volet, on n'a pas joué, cause Covid, ni le VBN, ni le NMRV.
Exactement, donc du coup, les matchs, ça sera samedi à 16h pour les filles contre France Avenir. Et pour les garçons, ça sera le 29 à Chaumont à 20h.
Ok, un mot un résultat de basket peut-être ?
Exactement. Alors, les déferlantes qui l'ont porté en Champagne à Reims, 71-66, et qui recevront Toulouse samedi prochain. Et pour les garçons, il n'y avait pas de match. Et il y aura la réception vendredi de Lille.
Eh ben c'est noté sur l'agenda. Allez, on passe à la suite. On parle de tous les autres sports. C'est Multizone.
Money time. Multizone. Tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va commencer cette rubrique multizone avec du tennis, Charles. On parle de l'Open d'Australie en l'absence de Novak Djokovic, bien sûr. On va connaître forcément un nouveau vainqueur.
Exactement, le premier grand chelem de l'année. Et bah, demain commencent les quarts de finale. Et on aura en français, en quart de finale, c'est Gaël Monfils, stade de série numéro 17, qui s'est qualifié aux dépens, notamment en 16e de Christian Garin, tête de série numéro 16, le Chilien, et de Kecmanovic, lui qui voulait venger Djokovic. Il a gagné aussi en 3-7. Il affrontera Matteo Berrettini, l'Italien, tête de série numéro 7, en quart de finale. On est bien content, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un Français en quart de finale d'un grand chelem.
Ouais, avec Nadal sur sa route, s'il venait à gagner.
C'est ça, on est dans l'autre quart de finale, ça sera Shapovalov contre Rafael Nadal, le Canadien, t'as des séries numéro 14, qui a gagné.
Surprise un peu.
Et Alexander Zverev, qui est en 3-7 en plus. C'est une grosse performance du Canadien. Donc ça va être un gros combat de gaucher demain. Et puis on verra bien, même si Nadal forcément par favori. Mon fils peut-il affronter en demi-finale si jamais il est qualifié, et on espère évidemment.
En bas de tableau, ça sera sans doute Medvedev.
C'est ça, Daniil Medvedev, tête de série numéro 2 et du coup le premier dans le tableau, parce que Djokovic ne le fait pas, affrontera Félix Auger-Aliassime, le Canadien qui vraiment progresse d'année en année et qui là commence à vraiment à se montrer. C'est le tête de série numéro 9 quand même, donc ça va être un gros combat. Celui en plus, Medvedev, qui a un petit peu galéré en 4-7 face à Maxime Cressy, l'Américain. Donc ça va être un beau combat contre les deux. Medvedev, évidemment, par favori, lui qui a gagné l'US Open, dernier grand chelem de l'année dernière.
Ouais, et le vainqueur devrait rencontrer donc Tsitsipas.
Ou Yannick Sinner. C'est vrai que Tsitsipas, en ce moment, est un petit peu dans une mauvaise passe, hein, ça rime, c'est marrant. Mais il a eu du mal aujourd'hui contre Taylor Fritz, l'Américain. Il a gagné en 5-7, alors qu'il était mené 2-1. De l'autre côté, c'est Yannick Sinner, l'Italien, tête de série numéro 11, qui a affronté Demi-Nord, qui l'a battu en 3-7, et qui du coup retrouve Tsitsipas. Ça va être un match très serré avec un Sinner très solide. Tsitsipas, on le connaît. Donc on a de belles confrontations en quart de finale du côté du tableau masculin.
Ouais, et cocorico, parce que chez les filles, on a aussi une Française en quart.
C'est ça, la belle surprise de ce tableau féminin pour nous Français, c'est Alizé Cornet qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Son premier quart de finale en grand chelem de sa carrière. Ça fait plaisir à voir. Elle a battu notamment Simona Halep en 8e.
Et Muguruza aussi.
Et Muguruza un peu plus tôt. Muguruza qui est quand même tête de série numéro 3. C'est quand même quelque chose. Alizé Cornet qui du coup affrontera Danielle Collins, l'Américaine, tête de série numéro 27 au quart de finale. C'est possible, c'est jouable. Très jouable.
Alors, par contre, c'est la dernière fois, c'était elle qui l'avait éliminée la dernière fois.
Oui, c'est possible. C'est possible, mais effectivement, c'est le sort de match très ouvert. Donc il y aura peut-être une surprise en demi-finale, espérons que ça soit du côté français. Alors de son même côté de tableau, c'est Iga Świątek qui s'est qualifiée, elle qu'on connaît très bien, qui avait remporté Roland-Garros en 2020, affrontera Kanepi, l'Estonienne surprenante, qui a battu Sabalenka, la Biélorusse, tête de série numéro 2. En autre partie de tableau, la grande favorite Ashleigh Barty, tête de série numéro 1, l'Australienne, chez elle, qui affrontera Pegula en quart de finale, l'Américaine. Elle rencontrera soit en demi-finale, si jamais elle est qualifiée, Krejcikova, qui a gagné Roland-Garros en 2021, qui est de série numéro 4, ou Madison Keys, qui s'affronte. Donc voilà pour les quarts de finale du tableau féminin, avec quand même à noter 3 Américaines.
Eh ben c'est super en tous les cas pour les Bleus, pour les Français. On va suivre ça avec passion. Allez, on enchaîne avec du sport méca. Fab, c'était le rallye de Monte Carlo.
Eh oui. Et là, à 47 ans.
48 même. Il a eu ses
48 le 26 encore. Février, dans un mois. Attention, ah, on n'avance pas l'âge.
Il fait plus 48 que 47.
Donc déjà un record, hein, 48 ans pour... C'est le plus vieux vainqueur.
Et ben,
80e victoire.
80e victoire, Sébastien Loeb, qui avait fêté son dernier titre en 2009, hein, et qui là revient mais à 200 à l'heure. Et il ne pensait pas revenir à ce niveau-là. Il avait fait une mauvaise passe en 2018-2019 avec Hyundai.
Et 2018, sa dernière victoire en WRC, il me semble, hein, c'était en Espagne.
Et exactement. Là, monsieur s'est fait prêter une voiture par un riche fortuné en WRC pour retrouver des sensations. Il les a retrouvées quand il s'est mis au volant de la Ford Puma. Et il a dit, mais ça va plus vite qu'avant, c'est encore pire qu'avant. Bon, il a un petit peu profité de la crevaison de Sébastien Ogier.
Ouais, dans l'avant-dernière spéciale.
Moi, ce que je veux dire surtout, c'est quel combat. On n'a pas vu les autres.
Non, les petits jeunes.
Il y avait Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. Un coup, c'était Loeb, un coup, c'était Ogier. Ça s'est tout le temps échangé.
Je suis d'accord avec toi, Jean-Marc.
Chaque jour. Et puis, le dimanche matin, Ogier était en tête. Il va commencer par crever. Se retrouver à 9,5 secondes de Sébastien Loeb avant la dernière étape.
Il lui met 9 secondes dans la vue parce que
exactement.
Sur le run, il y a 9 secondes.
Techniquement, il revient à 5 secondes, enfin à 5 dixièmes, pardon.
Exact.
Mais bon, malheureusement, une pénalité.
Les petits jeunes ont été spectateurs sur ce coup-là.
C'est clair.
Ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas, même le directeur sportif, le directeur d'usine de Sébastien Loeb, n'en revient pas. Il dit, attendez, il prend le volant.
On sait pas en plus, avec un nouveau copilote, hein, première fois qu'il pilotait
une femme qui est prof de maths qui s'appelle Isabelle Gamiche.
Qui n'a fait que les chemins de France. C'est la première étape en chemin du monde.
C'est un petit cadeau qu'il lui a fait.
Ouais, c'est une amie.
Il lui a fait un cadeau. Il lui a dit, tiens, je vais t'emmener au Monte Carlo, on va le gagner tous les deux.
Alors, Loeb devant Ogier, mais il faut savoir que ni l'un ni l'autre sont inscrits sur le championnat du monde 2022.
Ils font quand même à peu près 5 rallyes chacun.
Ouais.
C'est ce que tu n'as pas vu, parce que Ogier veut partir dans l'endurance, et Loeb, c'est son retour. C'est un retour gagnant. Mais normalement, il doit faire 4-5 Grands Prix. Ben,
4-5 bah, ça sera. Après, ça dépendra.
Alors, est-ce qu'il va fausser le chemin du monde ?
Alors, le mois de janvier n'est pas terminé pour Sébastien Loeb, puisqu'on a appris qu'il allait disputer les finales du trophée E-Andros à Superbès, hein, où là, comme il sera donc sur la glace.
Chapeau quand même, monsieur Loeb, parce qu'il passe du Dakar.
Du Dakar, il y a 3 semaines.
Au Monte Carlo. Il y a eu une semaine de battement entre les deux. Et dans moins d'une semaine, il est
sur la glace, quoi.
C'est un passionné, ce garçon.
Et la semaine de battement, il s'est entraîné sur Asphalt avec une voiture qu'il ne connaissait pas du tout, qu'on lui avait prêtée. Et juste pour se remettre un peu au volant, quoi.
Ouais, t'as le talent. Ouais.
Et à noter qu'elles ont vraiment évolué, les WRC ont vraiment évolué, puisqu'ils sont passés à 500 chevaux, hein, c'est avec leur moteur hybride, ça change un peu les choses.
C'est des monstres.
Ah bah, même lui, il a dit, j'ai été obligé de voir un opticien, et me mettre des lunettes, alors qu'il a 10 sur 10, parce que ça va trop vite.
C'est la première fois qu'il a des lunettes.
Voilà, exactement. Il disait que ça allait trop vite, et il ne comprenait pas, quoi. Et il s'est dit, moi, donc, tout compte fait, je n'ai pas besoin de lunettes, mais... premier abord, ça allait beaucoup, beaucoup trop vite.
Il est à verre fumé, histoire de mieux voir, effectivement.
Voilà.
Mais quelle course ! Et Craig Breen, l'Irlandais qui finit troisième, il a dit « Moi, je suis content d'être derrière... »
Oui.
Il a dit « Moi, je suis derrière 17 titres de champion du monde. »
Et virtuellement, en tête du championnat du monde des rallyes.
Et quand tu disais que Loeb, il avait conduit des lunettes, on rappelle toujours la super montée... aux États-Unis,
Pice Peak,
où c'était Vatanen qui l'a fait avec son bras, droit pour se cacher du soleil.
Pice Peak, d'ailleurs, dont Loeb a eu le record.
C'est
Dumas qui l'a.
Romain Dumas. Mais non, c'était.
Allez, on enchaîne. Il paraît qu'il y avait un super combat de MMA aussi ce week-end aux États-Unis
avec un Lyonnais, un jeune de La Roche-sur-Yon qui s'appelle Cyril Gane.
Ouais, c'est ça.
Il n'a pas gagné. Non.
Il n'a pas gagné, mais au moins, il a surmonté son potentiel en MMA après ses premières victoires qu'il a faites au MMA contre un très gros candidat, Francis Ngannou. Il a duré 5 rounds sans prendre de KO et sans subir de vraies prises de soumission. Je pense que pour sa carrière, si dans les prochains combats, il va pouvoir monter en régime. Et c'est une défaite.
Hein.
C'est une défaite, mais qui monte un très gros potentiel derrière.
Ouais. Mais surtout son histoire qui est folle, en fait, à ce mec-là, puisque à la base, il ne faisait pas du tout ça.
Il a commencé le sport de combat à 24 ans.
Voilà, donc c'est quand même incroyable. Avant, il faisait du foot, et après, il a fait du basket. Et on lui a dit, pourquoi tu ne fais pas des...
Il avait commencé par la boxe thaï, il a été invaincu pendant 3 ans d'affilée en boxe thaï.
C'est ça. Il a enchaîné du coup tous les sports de combat jusqu'à arriver
au sport le plus de sang.
Voilà.
Donc c'est un très beau parcours et franchement même si la défaite pour lui est sévère, ça montre c'est une défaite qui est positive.
Mais face à Ngannou aussi.
Une défaite qui est un peu normale aussi, qui est un peu logique pour le coup.
Mais on parle de Francis Ngannou, c'est quand même un des combattants MMA les plus forts au monde actuellement.
Il faut savoir que c'était un des Cyril Gane était un de ses partenaires d'entraînement il y a quelques années.
Ah oui.
Mais par rapport à toutes les victoires de Francis Ngannou, qui sous réserve ont tous fini KO et en sang, il ressort.
Oui, il avait juste le nez un peu gonflé.
Oh, bah t'es gonflé.
Allez, un mot de cyclo-cross, Charles. On parle de Coupe du Monde.
C'était la dernière étape de Coupe du Monde de cyclo-cross. Et une fois n'est pas coutume...
À Hoegerheide, aux Pays-Bas.
Et comme on dit, une fois n'est pas coutume. Élise Herbie s'impose de nouveau. Rien à dire. Élise Herbie, cette année, a totalement dominé la Coupe du Monde. Il s'impose devant Lars van der Haar et Tom Pidcock. De très bon augure pour les championnats du monde de cyclocross qui, aux États-Unis, dans 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus.
Ouais, dans 2 semaines, à Fayetteville.
C'est ça, donc c'est un plus sans Wout Van Aert et sans Mathieu Van Der Poel qui ont décidé, enfin Van Der Poel blessé à peu près et Van Aert qui renonce, il sera forcément parmi sans doute le gros favori avec Thomas Pidcock.
Est-ce qu'il a des ambitions d'aller sur la route, ce garçon ?
Bonne question, mais je pense pas aujourd'hui. Il a pas,
il est maître en son royaume, donc autant qu'il y reste.
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on l'a jamais vu sur la route. On sait pas ce que ça donne.
Ouais.
C'est pas un
polyvalent.
C'est ça. Il est pas polyvalent. On le voit. Il est assez frêle. Hein, il est pas aussi physique qu'un Van Der Poel ou Van Aert. Donc aujourd'hui, il se plaît. Il gagne en Coupe du Monde de cyclocross. Donc il y a aucune raison pour lui pour l'instant d'aller sur la route.
Allez, un mot de golf sur lui. PGA Tour.
Ouais, avec une bonne 4e place de Buisson.
Ah, là, tu es sur l'European Tour.
Ah, excusez-moi.
Non, je voulais qu'on parle de Paul Barjon, quoi. Oui,
d'accord.
Bah, à l'American Express, oui, oui, oui. Qui était en tête à moins 18 hein, oui. Jusqu'au troisième tour, qui finit dixième, bien sûr, son meilleur résultat en carrière. Un résultat qui lui permet de se hisser au 104e rang de la FedEx Cup. On rappelle que s'il veut avoir des droits l'année prochaine, il faut donc terminer dans les 125. Il restera beaucoup de tournois pour lui, il n'en a joué que 6. On rappelle, on suit ce joueur, hein, puisqu'on attend toujours une victoire d'un Français sur le sol américain. Ce n'est encore jamais arrivé.
Mais c'est ça, mais c'est dommage parce qu'il était, ouais, il était en tête après la troisième journée. Il fait, malheureusement, il fait une mauvaise dernière journée à plus 1. Dans le même temps, le vainqueur, c'est Swafford, l'Américain, qui fait une grosse dernière journée à moins 8. Il s'impose à moins 23 devant Hodge et Harman, qui sont à moins 21 et moins 20 respectivement. Donc c'est déjà un top 10 pour Paul Barjon. Il y a de l'avenir et ça va être. Et pour
ouais,
le futur,
on le suivra la semaine prochaine. On sera au Sander Farmers. De quoi on doit parler? Oui, Champions Cup. On parle bien sûr des Coupes d'Europe de rugby.
Exactement, c'était un petit peu ce qui a fait scandale. L'actualité un peu qui a fait scandale, c'est évidemment la défaite sur tapis vert du Stade Toulousain. C'est bon.
Ce qui fait scandale, c'est qu'ils n'ont toujours pas arrêté cette Coupe d'Europe de rugby qui ressemble à rien.
Il y a des matchs qui sont arrêtés à tout va, qui sont annulés, ou la défaite sur tapis vert, le Racing qui bat Northampton sur tapis vert. Il y a beaucoup trop de bizarreries, de tout ça. Pour moi, c'est une année. C'est une année oubliée de la Coupe d'Europe.
Ouais, on la joue, on la joue pas quoi.
Mais c'est ça.
Alors, on n'aurait pas dû la jouer. Ouais, on aurait gardé des matchs pour le top 14, pour assurer le tournoi destination. Déjà. Là, alors on va se retrouver avec un truc bateau, avec des huitièmes de finale où il y a 7 équipes françaises. Qui finalement sont retenus.
C'est ça. Bordeaux est qualifié, Toulouse est qualifié, le Racing doit être qualifié, le Montpellier, Stade Français aussi.
Sur le tableau, on aura un Racing Stade Français en huitième et un Bordeaux Bègles La Rochelle en huitième également.
Ça va être beau.
Toulouse se déplacera en Ulster et puis Montpellier, j'ai oublié.
Enfin, s'il se déplace à l'Ulster, c'est ça, hein, parce qu'on ne sait pas maintenant. Hein.
Oui, je l'aurais laissé tomber, cette compète.
Pour moi, mais genre...
Ouais, la bulle, le rugby ne fonctionne pas, à l'inverse d'autres sports. Bon, c'est un peu normal, hein, quand on met 16 mecs dans une mêlée, ça fait 16 cas de Covid à la fin. Quoi. C'est un peu ça.
Et
hein.
Peut-être d'autres maladies.
Allez, on va enchaîner, on va parler des sports d'hiver à deux semaines... Oui.
On peut juste un petit peu vite fait annoncer, dire les résultats de NFL. C'était
Je vais t'aider. Demi de conférence.
C'était les demi. Alors les derniers dernières demi-finales de conférence. On avait côté AFC, c'était les Kansas Chiefs qui affrontaient les Bills. Les Kansas Chiefs qui ont en prolongation.
Alors quel match entre les Chiefs qui recevaient les Bills de Buffalo. Victoire 42-36 en prolongation. Il va y avoir 25 points de marqués dans les deux dernières minutes 30 du temps réglementaire. Un match de folie. Et dans une le surprise, même temps... Ouais. Surprise, les Bills étaient un peu annoncés favoris.
Ouais.
Et puis bon, il y a quand même les Chiefs qui étaient champions il y a deux ans.
Et, donc,
et puis avec un geste de Mahomes pour aller arracher ce qu'on pensait être la victoire, c'était magique. Et puis, dans l'autre match de l'AFC, c'était la victoire surprise. Et je vous avais annoncé les Bengals, l'équipe surprise. Hein, je vous avais dit 91 pour leur premier passage en play-off. Je ne sais même pas quand est-ce qu'ils ont été en finale de conférence. Et qu'ils l'ont emporté chez les Titans, qui avaient fini premier de conférence, 19-16. Dans l'autre tableau en AFC, je pleure, j'ai pas fini de pleurer. La défaite à domicile au Lambeau Field, frigorifique, moins 25 degrés.
Les Packers
éliminés, toi tu vas être content, par les 49ers de San Francisco, 13-10, sachant que les...
Ils menaient 10-3, je crois.
Voilà, ils menaient 7-0 après 5 minutes, les Packers. Et ils vont mener jusqu'à 4 minutes de la fin, 10-3. Et sur un punt raté des Packers, la balle est contrée. Et les 49ers vont marquer le touchdown qui leur permet de l'emporter.
Bah, je suis un peu triste.
C'est un coup dur. Ouais.
Et il y en a d'autres qui sont tristes puisque Tom Brady a été éliminé à domicile avec les Tampa Bay Buccaneers. 30-27
pour les Rams.
Pour les Rams. Alors les Rams, ils ont mené tout le match. Ils ont même fait peur puisque c'est dans le dernier quart.
Ils menaient 27-5 ou 3. Enfin, un truc c'est ça, ça hyper énormément. Et puis finalement, ils se font rattraper à 27 partout et un dernier field goal.
Un gros jeu de Tom Brady. Et puis voilà, il l'emporte juste à la fin.
30-27.
Jean-Marc, rappelle-moi, les 49ers, c'est
San Francisco.
Et donc, et Joe Montana, ne pas confondre avec
finale
Tony.
De conférence, c'est le week-end prochain. Premier match, ça sera samedi, donc entre
les Chiefs et les Bengals
chez les Chiefs à 21h. Et finale de NFC, ça sera le dimanche 30 à 21h. 31, pardon. Oui, ça ne marcherait pas.
Ouais.
Chez les Rams,
face aux
San Francisco 49ers. Voilà. On rappelle que la finale du Super Bowl aura lieu chez les Rams, puisque c'est au SoFi Stadium de Los Angeles.
On débriefe ça la semaine prochaine. Allez, cette fois-ci, à 2 semaines des JO, on va vous parler des forces en présence, des Français qui peuvent nous ramener des breloques.
Pendant ce temps-là, Martin Fourcade est déjà en train d'en terminer. Quelle réaction du patron du biathlon mondial. Le 10e titre de champion du monde à titre individuel pour Martin Fourcade. Champion Fourcade.
Snowpark, l'actualité des sports d'hiver, tous les lundis de 19h à 20h dans Money Time.
Money Time.
Et on commence avec le biathlon. On était à Anterselva en Italie. Et les garçons n'ont pas trop brillé, donc on va plutôt s'intéresser d'abord aux filles. Ça a démarré avec une individuelle.
C'est ça, et bah on était en Tulsa le dernier week-end avant les fameux Jeux Olympiques d'hiver très attendus à Pékin. Ça a très bien commencé, comme tu le dis, chez les femmes, avec une beau doublé sur l'individuelle femme. Justine Brezaz devant Julia Simon, que demander de mieux ? Rien, je crois.
C'était magnifique. Et puis, alors, c'est peut-être presque les filles sur qui on parierait le moins en individuel. Et en fait, elles ont assuré... comment elle s'appelle ? Justine Brezaz avait déjà gagné, en individuel.
Ouais, elle avait déjà gagné. Et là, ça a fait un magnifique 19 sur 20. C'est une des filles, je pense, la plus rapide cette année sur les skis chez les femmes. Quand elle met le tir, forcément, ça fait des beaux résultats. Et là, une nouvelle victoire, c'est sa deuxième de la saison. Mm-hmm. Ça fait plaisir.
Ouais, puis répétition à 2 semaines des Jeux, c'était important sur un exercice compliqué pour toutes les filles. Donc, ça met en confiance. Hein, c'est ce qu'ont relevé les entraîneurs français.
Hein. C'est ça.
Et puis la course suivante, c'était le relais femmes.
Le relais femmes et encore...
Et belle prestation des Françaises qui alignaient Paula Beauté, la toute jeune, elle a 21 ans.
Troisième relayeuse.
Et c'est la fille, je te pose la question à toi Mathieu, d'une ancienne championne, la seule médaille d'or olympique en 92 à Albertville. Qui est sa maman qui a gagné cette médaille ?
En biathlon.
C'est la maman
Corinne Niogré.
Non. Nian Briand, c'est la troisième, c'est Véronique Claudel, c'est la maman de Paula Beauté. Donc, à mon avis, elle a une belle carrière et elle l'a prouvé avec une superbe troisième place en relais.
Une belle troisième place en relais et surtout, elle, dans son relais personnel, un magnifique dernier tour et elle grappille du temps. Elle a repris quasiment 15 secondes sur celle qui était en tête à ce moment-là. C'est vraiment un magnifique relais de la part des Françaises qui ont plus quand même mis 13 pioches.
Mais... À noter que dans ce relais, en plus, il y avait Chloé Chevalier qui a fait le départ, qui a fait une belle prestation.
Justine Brezaz qui était deuxième.
Qui a bien poussé. Anaïs Bescon qui arrache la troisième place d'un bout de ski. Elle était complètement crevée.
Face à Sanfilippo.
Bien mamie.
Ouais, c'est ça.
Allez, on va l'appeler maman.
Et ça se terminait hier par la Mastart. Et là encore, un podium pour les Bleus. Donc les filles qui font un super mois de janvier.
Et celle qu'on attendait pas. On pensait qu'elle était même. Moi, je croyais qu'elle était malade.
Mais elle n'était pas là sur l'individuel.
Parce qu'elle n'était pas là sur l'individuel. Alors c'était prévu qu'ils ne la mettent pas ainsi que Julia Simon sur le relais. Et là, Anaïs Chevalier-Boucher qui fait une superbe troisième place. Et puis des Françaises qui font dans les 10.
Anaïs Chevalier fait 3e, comme tu viens de le dire. Justine Brezaz fait 5e, donc une belle cérémonie des fleurs. Hein, ils ont mis les bouchées doubles. Et Julia Simon qui finit 10e. Donc c'est vraiment, encore une fois, une belle performance des Françaises dans l'ensemble.
Ouais, chez les garçons, après une super 15 ans en Allemagne, pas de podium. Le meilleur Français ce week-end, c'était Antonin Guigaudin. Et quatrième sur la Mastart.
Et Simon Détier aussi qui fait, si je crois bien, quatrième aussi sur l'individuel. Non, il fait sixième. Donc effectivement, tu as raison, excuse-moi, c'est moi.
Je te remercie.
Donc, donc c'est l'individuel où ça a commencé avec une victoire du Russe Anton Babikov, un peu surprenant, avec un 20 sur 20.
Oh, mais... surprenant, il était bien aussi à RuPolding. Ouais. Hein.
Exactement.
Il nous l'avait montré en relais notamment. Ouais.
Hein. Donc il revient cette année en plus sur la Coupe du Monde, donc c'est vraiment
intéressant. Il devrait être qualifié avec ses résultats pour les Jeux Olympiques alors que lui était que réserviste.
Sans doute avec Loginov, Latipov et Kalili. La Kalili qui fait une belle troisième place sur cette
premier podium hein, pour ce jeune russe.
Ouais, donc c'est vraiment intéressant pour les Russes qui reviennent très en forme et reviennent bien là, cette année. On a de plus en plus de Russes là qui montent, donc c'est vraiment intéressant. Tariabeu qui s'intercale en deuxième place et Simon Détieux qui fait du coup une belle cérémonie des fleurs sixième. Fabien Claude lui fait aussi un bon résultat huitième. Emilien Jacquelin dixième.
Donc, et la Mastart, c'est la
Mastart avec la surprise d'Ol. Qui bat bœuf à la régulière.
Ah bah la régulière, il n'y a rien à dire. Il a fait une magnifique 19 sur 20. Il a montré qui c'était le patron. Une faute simplement sur le premier debout. Sur le deuxième debout, bœuf qui fait une faute. Alors que dans le même temps, Benedikt Doll qui arrive juste derrière sur le tir. Lui, il fait un 5 sur 5. Rien à dire. Il était surpuissant en plus dans le dernier tour. Jonas Bø n'a jamais pu le rattraper. L'Allemand qui enchaîne. Il s'est fait une deuxième victoire cette année. Du coup, il s'impose devant Jonas Bø et Laegrid. Antonia Gigona, une belle quatrième place pour lui.
Et Quentin Fillon, il est toujours en tête avec le maillot jaune.
Et du coup, en relais, puisque l'équipe de France de relais garçon était expérimentale, c'était Fabien Claude qui est parti le premier.
Devant Antonin Gigona. Simon Détieux et Éric Perrault qui est finissait le relais.
Mais ça fait pas podium.
Éric Perrault a récupéré après son deuxième tir, il est deuxième, sauf qu'il a tout donné, il a plus de jus, il a pas encore l'expérience et malheureusement il finit quatrième. Mais
ok,
belle presta quand même.
Donc on suivra les prochaines aventures de nos biathlètes. Ça sera donc à Pékin. En alpin, on était à Kitzbühel en vitesse. Victoire pour Kiel 2.
Victoire pour le Kiel 2 et double podium du coup pour les Français avec.
Alors ça c'était jeudi.
C'était jeudi. Mais on voit c'est un jeudi, c'était à Bormio.
Non, il y avait deux courses sur la Strive.
Deux descentes à Kitzbühel.
C'est pour ça, dans l'ordre. C'était bien. Excusez-moi. Kitzbühel. C'est ça, la première descente, du coup, on a eu comme le beau double podium des Français avec.
Alors, avec Johan Claret.
Johan Claret et Guise Danner.
Qui ira lui aussi à Pékin pour les Jeux Olympiques. Il a son ticket.
C'est ça, donc encore un Français, un podium, c'est vraiment bon pour la France. Ça faisait en plus en descente, souvent on n'a pas beaucoup de podiums. Donc là, c'est vraiment ça.
Le lendemain, c'était le slalom avec la victoire de Dave Riding. L'Anglais qui n'a jamais gagné sur le circuit de la Coupe du Monde prend sa première victoire à 35 ans, il faut le rappeler.
Un Anglais, c'est pas souvent.
Devant Lucas Bratton qui avait gagné le dernier slalom, donc l'homme en forme. Attention à lui aux Jeux Olympiques.
Et Christophersen.
Deuxième descente, c'était hier. Cette fois-ci, c'est Bitfuzz qui l'emporte devant Marco Odermatt. Cinquième jeudi, deuxième dimanche. C'est incroyable ce garçon sur la descente de la mort d'arriver à faire ce qu'il fait.
Non mais c'est le meilleur aujourd'hui skieur du monde, il n'y a rien à dire, il domine tout le monde, il est tout le temps là présent, c'est incroyable comment Marco Odermatt est si fort. Il en impose, aujourd'hui il est largement en tête du classement de la Coupe du Monde avec 1200 points. Kiel 2 est à 825, Pinturo lui est loin derrière, n'en parlons pas, à 7e à 411 points. C'est assez incroyable comment Marco Odermatt domine ses adversaires.
Ouais, allez, on va parler de Tesla 2 parce que cette semaine, elle était au X Games.
Et elle a gagné.
Elle a gagné deux fois.
Ouais, double victoire en
Big Air et en slopestyle.
Et en slopestyle. Donc c'est vraiment une double médaille d'or.
Un record d'un 1080, je crois, passé en
2460.
Voilà,
2460, ça fait trois tours et quelques.
Quatre
tours et quelques, quoi, on les compte même plus. Ouais. Donc de bon augure hein, avant les JO. On a aussi brillé en ski cross ce week-end, c'était à Idrettsfall avec quatre podiums pour les Bleus. Donc, on reviendra sur un petit peu les équipes de France hein, qui partiront à Tokyo avec les forces en présence.
Où est-ce que tu vois les médailles, toi, Mathieu?
En biathlon, j'en vois pas mal.
Ouais, biathlon, ouais.
Et puis...
Alors moi, en ski alpin, il y en aura quelques-unes, je pense.
Moi, je mettrais en biathlon, en ski cross, Tesla 2, Papadakis Cizeron en patinage artistique.
Je pense qu'il va y avoir un peu de médailles. Ouais. Et puis, alors sur le ski alpin, peut-être qu'il y aura Tessa. Oui, bien sûr.
Ski boss aussi.
Tessa Worley, peut-être. Et puis les garçons, il y en a sûrement un qui va ramener.
Bon, on en parle une prochaine fois. Il nous reste un quart d'heure. On parle de football. C'est le Prune Football Club.
Money time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va compléter la 22e journée de Ligue 1 puisqu'on a parlé que de Nantes-Lorient, mais on va parler des autres maintenant rapidement avec toi déjà, Jérém, pour le déplacement de Rennes à Clermont.
Et déplacement à Rennes pour Clermont, Clermont qui devait confirmer le 6-0 et la remise en forme des Rennais. Chose qui n'a pas été faite, trop suffisant, juste un petit but marqué à mi-temps, alors qu'ils auraient pu facilement en planter 2 ou 3, voire même 4 dès la mi-temps. Et on se fait punir encore une fois bêtement par deux anciens Rennais qui sont Lucas Dacuna et Jean Estelle.
Et Rennes, c'est 4 défaites en 5 matchs. Malgré leur 6-0 infligé à Bordeaux,
malgré le statut de la 3e meilleure attaque et de la 4e meilleure défense de Ligue 1.
Voilà, mais meilleure attaque, ouais, t'as raison. Ouais.
Et c'est vraiment très inquiétant pour la suite, si mentalement parlant, les Rennais n'arrivent pas à se coordonner.
Par contre, je ne sais pas si tu as vu le match, mais il y a un petit jeune qui est rentré d'Akuna, qui est un ancien Rennais, qui a été formé à Rennes, qui a été prêté par Lille.
Qui a marqué, d'ailleurs.
Qui est prêté par Lille, et c'est lui qui a...
Et lui, il va falloir le suivre, parce qu'il est pas mal.
Il est très, très, très bon.
Il est pas mal, il est vif. Son entraîneur en dit que du bien. Il a dit, j'ai trouvé une petite perle. Et là, ça va être chaud.
Ouais. Ouais.
Bah, disons que Rennes avait des ambitions, mais là, il laisse maintenant les concurrents, que sont Marseille, qui va s'imposer... À Lens 2-0,
avec un beau plongeon sur le premier pénalty de la part de... aidez-moi donc...
Dimitri Payet.
Non, son collègue avec les cheveux longs, qui est arrivé cette année.
Guendouzi.
Merci, Matteo Guendouzi.
Plongeon de Guendouzi, pénalty de Payet, 1-0 pour l'OM. Et c'est
le deuxième but de Bakambu, le nouvel arrivant.
Qui est venu d'arriver pour son premier match, qui marque.
Parfait, pour
Marseille, qui reste troisième, donc c'est pas mal.
Nice se déplacer à Metz.
Et Nice qui confirme sa bonne deuxième place, qui regagne encore une fois 2-0, si je ne dis pas de bêtises.
Avec un pénalty contestable aussi.
Oui. Avec un premier but de Kefren Thuram.
Exactement, et Guiri qui met le deuxième en 60 matchs sur un pénalty. Bah, Nice qui conserve du coup sa troisième place. Et,
deuxième place,
Marseille qui a un match en moins. Donc c'est Nice qui est encore une fois, le podium commence à se dessiner.
On parle de l'embellie bordelaise.
Ah oui, là, quel match. Pour moi, c'est le plus beau match de cette journée de championnat, parce que 4-3, ça a été un scénario complètement fou.
C'est ça, et avec un triplé de Laurent
Wang, le coréen. Et
intransférable apparemment, selon la direction.
Ah bon?
Ouais.
Qui était quand même,
oui, on va parler
hors des tablettes
de
au départ, et tout ça, d'un seul coup, il a tapé un triplé. Mais il faut aussi le doublé de Gamero aussi en face.
Oui, qui est revenu, puisqu'il menait 3-0 Bordeaux.
3-2,
4-3.
Ils ont refusé avec le doute, et finalement...
Quand tu suivais le match, j'étais en différé, et je me dis, Strasbourg va revenir, quoi, Yvan. Et non, ils ont tenu quand même.
Ouais.
Ils ont tenu. Bravo pour eux.
La belle victoire de nos voisins brestois. 2-0 contre Lille. Belle surprise.
Belle surprise. Très bien pour nos brestois qui se replacent un petit peu et qui sortent un peu de la zone.
Ouais, Lille qui rentre dans le rang, hein, du coup.
Tout à fait.
Dernière Nantes, 10e.
Angers qui s'est fait peur, qui était mené par 3-1-0 et qui l'emporte 2-1 grâce à deux pénaltys.
Alors, oui, deux pénaltys, mais alors là, il faut le dire, Mangani qui est le spécialiste des pénaltys. Il a marqué son premier en 2015, c'était contre 3 d'ailleurs. Et maintenant, sur 21 pénaltys tirés, il en a marqué 19.
C'est pas mal.
C'est le recordman en France.
Plutôt bon
ratio. Mm-hmm.
Alors, tu parlais de plus beau match. Moi, pour moi, c'était Montpellier-Monaco 3-2. Il était magique.
C'est Wai qui ouvrait le score pour Montpellier. Même 2-0, ils enchaînaient avec Mavididi. Monaco qui arrive à revenir juste derrière à 2-1 par Ben Yedder. Vanderson, la recrue mazienne du mercato hivernal.
2-2.
qui fait 2-2 et en toute fin de match, Stéphie Mavididi dans le temps additionnel qui vient offrir la victoire
sur un but merveilleux, une frappe dans la lucarne, c'est magique, c'est magique.
Ouais, Montpellier qui remonte à la 6e place, hein, donc la dernière pour la qualif.
Ouais, qui était resté sur 2 défaites d'affilée, donc voilà quoi, c'est bien de revenir comme ça.
Strasbourg-Montpellier dans le top 6, ouais, c'est un peu surprenant, ouais. Mais bon, je sais pas si ça va rester comme ça, c'est très serré, hein. Nantes pourrait y arriver à la prochaine journée, à la 6e place.
Hein, bah, ils sont pas la 3 points de la 4e place. Donc.
Bon, Charles, parle-nous de la victoire vendredi Flamireil sur un pénalty encore de Lyon sur Saint-Etienne.
Oh, quel beau derby c'était, vraiment. Nous avons assisté à un des derbys de la décennie, voire même du siècle, je dirais plus. Non, c'était vraiment un derby assez pauvre en termes d'occasion et de jeu, même si on va dire que le gardien Paul Bernardini a fait quand même 2-3 parades.
Le gardien lyonnais, hein, sur une belle occasion de Saint-Etienne.
Exactement. Bon, c'était un match banal, on va dire ça comme ça, en termes de jeu. Il y avait pas les supporters, donc c'est forcément, ça faisait pas un beau derby. Dembélé, qui est la 15e, sur un penalty concédé par Timothée Kolodziejczak, c'est Dembélé qui vient le transformer 1-0. Lyon se satisfait de ça pour l'instant. Ils reviennent à la 11e place avec un match en moins.
Dernier match de la journée, la victoire de Paris 4-0 avec deux buts de Verratti.
Super, allez.
Ouais, mais bon, la différence entre les équipes, elle est trop énorme, quoi. Les Parisiens n'ont pas été flamboyants, mais dès qu'ils ont accéléré, voilà, ils ont mis 4 buts. Et puis après, terminé, le match était bâché.
C'est x10 ou x20 le budget.
C'est x10, exactement. C'est x10. Allez, je crois que c'est 50 millions et voilà.
500 millions.
Mais voilà.
On part à l'étranger, Jérém, avec toi.
Oui, alors on va faire un petit topo sur la surtout en Bundesliga, où nos Français ont assuré ce week-end. On va commencer tout d'abord avec le match Hoffenheim-Dortmund, où Hoffenheim a perdu, mais où Jorginho Reuters, encore un joueur formé à Rennes, qui a marqué. Après, on va enchaîner à Leverkusen, où l'ancien parisien Moussa Diaby qui a marqué un triplé, dont son premier but a été une passe D de Yacine Adli, encore un Français. Et après, j'ai enchaîné sur le match de Cologne, où Anthony Modeste a marqué son 13e but de la saison. Et pour finir, le Bayern qui gagne 4-1 face au Hertha avec un premier but, le premier but du match qui a été marqué par Corentin Tolisso.
Superbe. Et c'est un centre de Coman, non ?
Oui.
On n'a jamais eu autant de Français en Bundesliga. Hein.
Pour la stat, Moussa Diaby qui remonte très très bien au niveau des scores, sur ses 18 matchs, il a rendu à 8 buts et 6 passes décisives.
Oui. Et puis c'est pas fini quand tu parles de Français, parce que Randal Kolo Muani risque de partir à Francfort. Donc
c'est pas fait, apparemment il a refusé une offre.
Oui, bon.
Oui, c'est pour faire monter le prix, c'est son frère qui a refusé.
Il faut savoir que la 22e journée du championnat de France a été la plus prolifique avec 35 buts.
Et là, on parle de deux championnats presque jumeaux entre le championnat allemand et ce qui est en train de devenir la Ligue 1. Moi, je trouve ça génial.
On va passer à 18 clubs.
32 buts en Bundesliga et 35.
Allez, Jérém, on passe les frontières.
Et ben, on va parler les frontières. Angleterre.
On va aller parler vite fait en Angleterre où le club de Steven Gerrard, Aston Villa, a battu Everton qui descend, et qu'un petit fait divers, le joueur Lucas Digne a été agressé par ses anciens supporters
un jet de bouteille, enfin, c'est encore inadmissible qu'on voit ça. Pourtant là, le match n'a pas été arrêté, Lucas Digne s'est relevé, il n'a pas eu d'aide psychologique comme certains auraient pu avoir besoin.
Je vous ai dit la semaine dernière, il n'y a qu'en France qu'on arrête les matchs pour des jets de bouteille.
C'est vrai. Après, United qui se ressaisit un petit peu face à West Ham en battant West Ham d'1-0, signé Rashford à
toute fin de match
dans les arrêts de jeu. Swanton qui tient tête face à City, un partout, premier but de Walker Peters à la 7e minute, et un but du français Ébric Laporte, enfin du français espagnol maintenant.
Du franco-espagnol.
Du franco-espagnol qui est maintenant espagnol.
Je ne dirai rien sur l'arbitre, il a été mauvais, c'est tout.
Voilà, et Liverpool qui enchaîne et grappille des petits points grâce à Manchester City. Liverpool qui gagne 3-1 face à Palace, avec un but encore d'un français de Hudson Edward pour Palace.
Exactement.
Ouais, Manchester City a quand même fait, il y a 11 points d'avance quand même.
Oui,
voilà. Oui, mais quoi. Liverpool a dit qu'il lâchait pas l'affaire, il comptait
pas. Ah non, mais on
n'oublie pas,
et fini,
on n'oublie pas qu'ils ont ni Mané,
ni Salah.
Mais au bout de 23 matchs, t'as 11 points d'avance.
City n'a pas Mahrez.
Oh, oui, ça va.
Ah bah.
Mais ils en ont du matériel, City.
Bah, Liverpool, ils en ont du matériel.
Allez, on parle de l'Espagne avec une équipe qui continue de surprendre, le Betis.
Le Betis de Séville qui confirme et maintient sa troisième place grâce à sa victoire 4-1 face à l'Espagnol de Barcelone, avec une passe D de Nabil Fekir. dans ce match-là. Le deuxième, c'est Séville qui fait que un match nul, deux buts partout face au Celta Vigo.
Ils sont revenus difficilement hein, parce qu'ils étaient menés 2-0 et c'est Papu Gomez qui met une magnifique frappe et Oliver Torres qui vient égaliser, mais ce fut compliqué pour
eux. Autre équipe d'Espagne qui sont les Colchoneros qui reviennent de très très loin dans ce match face à Valence.
Le renversant match des Colchoneros de notre ami Vincent.
Qui y était ?
Qui était, oui.
Il est partout, Vincent.
Et il était même, je vais dire, il était à un autre endroit juste le lendemain. Du coup, il a vu comme nous aussi. Valence menait 2-0 et l'Atlético retournait le match et l'emportait 3-2.
Ouais. Avec un but à la 90e et la 93e.
C'est encore une autre équipe qui revient de loin aussi lors de cette journée de Liga. C'est le Real qui menait 2-0 jusqu'à la 76e minute de jeu et qui revient grâce à un penalty de Modric à la 80e minute et un coup de tête de Militao en fin de match qui
clore. Qui perd Benzema. Peut-être.
Et là, tu vas nous dire
que Vincent y était aussi.
Oh, comme par là.
Mais Benzema, il y a eu des. Les éléments ont été faits. Il a rien du tout.
Il a rien, c'est bon.
C'est juste le fait de.
Bah, c'est bon. Pour Paris, c'est moins bon, mais.
C'est une blessure de fatigue.
Petite chose à noter sur comment Benzema. Il a raté son premier pénalty, il n'en avait jamais raté.
En club.
Ouais. En club.
Il n'a jamais raté un ballon en club.
Non, parce qu'on le connaît.
Oui,
en France, oui, mais en club, il n'a jamais
raté. On ne parle pas de Benzema. On va en Italie maintenant.
Italie, où l'Inter, leader, s'est difficilement imposé face à Venise. 2 buts à 1. Et Naples, le gros score de la journée, parce que, avec la Roma, c'est Naples d'abord qui a gagné 4-1 face à la Salernitana. Avec un but de signé,
lanterne rouge.
Avec un but de signé qui égalise Diego Armando Maradona avant son futur départ cet été à Toronto.
Il bat le record, celle de la Sanina. Ouais. 53 buts, ils ont pris. Hein.
Le gros match aussi du week-end, c'était AC Milan-Juventus qui s'est fini sur un triste 0-0, rien de fou. La seule info à noter, c'est la blessure de Zlatan Ibrahimovic, remplacé par Giroud.
Autant de Chine, en gros, ça craint pour Zlatan.
Parfait, allez, il nous reste 5 minutes, on parle de la CAN.
Voilà, la CAN où a commencé hier soir les premiers demi-finales. Le premier match face au
Gabon. Qui gagne au pénalty.
Match qui s'est terminé au score final à 1 partout et qui est au pénalty 7-6
pour le Burkina.
Alors, le Burkina, une semaine après, est-ce qu'on se rappelle le surnom de cette équipe ?
Les étalons. J'en aurai un pour vous.
Il faut noter, c'est la grosse performance des Comores, Titi du Pacifique, ou qui vont rencontrer.
L'Océan Indien.
Le Cameroun ce soir, et qui avait été refusé en 2019 à la CAN. Et cette équipe a été créée à Marseille.
Oui, mais de toute façon, c'est que des expats, d'ailleurs que des joueurs d'expérience. Exactement. Il y a même un ancien Nantais, Shaker à la dure.
Passé par Caen aussi.
Exactement, qui vont jouer ce soir. Et justement, comme tu me lances sur les Comores, quel est le surnom des Comores, des joueurs des Comores?
Et j'ai grillé ma fiche de la semaine dernière.
Oui, tu ne l'avais pas marqué.
J'avais pas mal les Comores. Alors, c'est pas dans les Panthères, c'est.
C'est le Gabon. Je vais t'aider, tu ne trouveras pas. C'est les Sélacantes.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un poisson historique. Préhistorique.
Un poisson pas très bon.
Et les Sélacantes joueront ce soir à 20h face au Cameroun sans gardien.
Exact. Donc, alors, c'est pas sûr encore.
Non,
c'est pas sûr.
Ça t'est validé.
Ça s'est fait. Il n'y a pas de gardien.
Donc, un défenseur.
Un gardien volant.
Un défenseur qui va être dans le but.
Un volant,
un
jeune.
Un défenseur ou un joueur de champ qui jouera dans les buts.
C'est terrible ça.
Parce que Ali Abada s'est fait tester négatif ce matin, mais la CAF a réinventé une nouvelle règle le jour même.
Il fallait 5 jours. Il fallait 5 jours. Voilà.
Alors que le match d'avant, par rapport au Tunisie, il fallait qu'à 7 jours.
Bizarrement, c'est face au Cameroun.
Exactement, comme quoi on tape dans les boîtes.
Est-ce qu'on a la cote des Comores?
Non. Mais elle doit être très haute, surtout depuis qu'on sait qu'ils n'ont pas leur gardien.
Si tu as un peu d'argent sur toi, mais je mettrais bien un billet. Mais bon, là,
avant le quiz, d'autres résultats?
Autant le brûler. Hein.
Bah non, parce que si la Gambie qui vient de battre la Guinée 1-0, le but de Moussa Baro. Et du coup, les Comores.
Les Comores, je vais regarder ça ce soir, ça me plaît.
Ça me passionne.
La Tunisie qui s'est qualifiée.
Et la Tunisie hier qui s'est qualifiée aux dépens des Super Eagles 1-0. Le but de M. Sakni. Du coup, le Nigeria qui est éliminé, les Super Eagles qui éliminés, Moses Simon qui revient.
Les favoris.
Les Aigles de Carthage qui avaient 10 joueurs positifs au Covid. Ouais.
Allez, il reste 3 minutes, on va jouer, c'est l'heure du quiz.
Money time. Chaque semaine, on se divertit. Chaque semaine, on se quiz.
Alors, on va commencer par une petite question. En 1983, vous le savez tous, Lénine Noa a gagné ce premier Roland-Garros.
Ah bon ?
Mais qui avait gagné la finale féminine ?
Aucune idée.
Steffi Graf.
Non, 83. Chris Evert, Navratilova.
Chris Evert. Et c'était Evert, pas ouais. contre Navratilova, c'était contre Mima Jankovic.
Ah oui, j'allais dire.
Et pourquoi on dit qu'Alain Prost est un champion du monde hors norme ? Parce qu'il a réalisé deux exploits hors norme.
Il a gagné
4 titres, c'est le seul non. français.
Je veux dire, il a eu deux coéquipiers. Deux coéquipiers qui étaient champions du monde en titre.
Senna et Loda.
Non. Oui, tout à fait. Mais c'est lui qui est devenu champion du monde après.
Oui, ouais.
En d'accord. 85 et en 89, alors que ses coéquipiers étaient champions du monde en titre, il a gagné le championnat du monde.
D'accord.
Question suivante.
Bernard Thévenet, combien de Tour de France il a gagné ?
75-77.
Bon, rien à dire. Et pour quelle équipe ?
Gad Mercier.
Bon, d'accord. Peugeot.
On peut s'arrêter bon, là. Ouais.
Et Peugeot, le...
John McEnroe est né le 16 février 1959. Mais quelle première nationalité il avait ?
Il vierge ?
Non.
Bahaméenne ?
Non.
Portoricaine.
Ah. Hey, ah. Ça pose problème.
L'île de Man, écossaise, britannique.
Il n'est pas né aux États-Unis, il est né dans un autre pays, en oui. Europe d'ailleurs. Il est né en Europe.
En Allemagne.
Exactement, il est né en Allemagne. T'as
d'accord.
Toi. Non.
À peine.
Il est né à Wiesbaden.
On dirait Moscato. Ouais.
On enchaîne.
Et on continue pour savoir. Noah, on revient en 83. Il avait battu un Français.
Roger Vasselin.
En demi-finale, ouais. Et Roger Vasselin, il avait battu qui ? En quart ?
Lendl.
Et non, c'était non. Noah qui avait battu Lendl.
Il avait battu Connors.
Exactement. Non, bravo, 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 bravo.
Ils l'ont tous vécu.
Bon, j'avais l'Allemagne de McEnroe.
Ouais.
C'est bon, on est.
Alors, donc, du coup, j'ai retrouvé la personne qui va te réjouir, la handballeuse, qui va revenir dans le championnat français. C'est Malin Holta, la norvégienne, qui revient pour jouer à Toulon.
D'accord. Ah, bah écoute, super. Je suivrai Toulon, hein, mon ancienne ville d'accueil. Bon, bah, il est 20h, on va laisser la place à Matt et à son équipe de passage en force. Ça parle NBA. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Salut à tous.